J'en passe maintenant à la présentation de notre conférencier de ce soir, Jacques Reda. Jacques Reda est poète, il est né en 1929. Pour son parcours, je donnerai plusieurs dates. En 1953, il s'installe à Paris et exerce différents métiers administratifs en usine et dans la publicité. Il a effectué de nombreux courts voyages en Europe et de fréquentes excursions cyclomotorisées en France. En 1961, il commence à publier dans diverses revues, dont les Cahiers du Sud. En 1963, il commence une collaboration avec Jazz Magazine. En 1967, il commence également une collaboration avec les Cahiers du Chemin, dirigés par Georges Lambrich. En 1968, parution de Amen chez Gallimard, il reçoit le prix Max Jacob. En 1978, il devient lecteur chez Gallimard, puis en 1983, il entre au comité de lecture des éditions Gallimard. De 1987 à 1995, il succède à Georges Lambrich en tant que rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Française et il réalise, avec, pour la Nouvelle Revue Française, 100 numéros. En 1993, il reçoit le Grand Prix de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre. Pour ses spécialités, Jacques Reda est inspiré par la ville et plus particulièrement par Paris. Il est l'auteur de textes dont le mouvement et la structure sont le reflet de ses promenades parisiennes. Il a publié de très nombreux articles. Il a également publié des poèmes inspirés par des chansons traditionnelles dont certaines ont été mises en musique par la suite. Et il est également l'auteur de très nombreux ouvrages. Je ne pourrai pas les citer tous, donc je citerai ceux dans lesquels il y a des textes sur Paris. Alors, en 1977, il publie chez Gallimard, Collection Le Chemin, il publie donc Les Ruines de Paris. En 1982, il publie Hors les Murs, chez Gallimard, Collection Le Chemin. En 1985, il publie Beauté suburbaine, chez Fanlac. En 1986, il publie Château des courants d'air, proses et poèmes, aux éditions Gallimard, Collection Blanche. En 1988, il publie Recommandations aux promeneurs, chez Gallimard, Collection Blanche. En 1997, La liberté des rues, chez Gallimard, Collection Blanche toujours. En 1997, Le méridien de Paris, chez Fata Morgana. En 1998, Le citadin, chez Gallimard. Enfin, en 2001, Accident de la circulation, publié encore une fois chez Gallimard, Collection Blanche. Jacques Reda, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra une série de questions-réponses avec le public. Je vous remercie.
Eh bien, il m'incombe à présent d'ajouter à la liste des remerciements ceux que je voudrais exprimer à l'Université de tous les savoirs, non seulement pour son invitation, mais pour le caractère particulier qu'elle a, puisque après une nouvelle série de conférences où j'ai entendu moi-même de brillants savants spécialistes, cette université fait appel à l'un de ceux qui, croyant tout savoir, ou qu'on soupçonne de savoir des choses un peu étranges, d'autres choses, en réalité ne savent rien. C'est-à-dire ceux qu'on appelle poètes et qui méritent ou encourent peut-être cette qualification. Par prudence, je dirais. Par prudence, je me placerai d'abord sous l'invocation de quelques grands anciens, ou du moins un seul, ou deux. Il sera beaucoup question de Baudelaire tout à l'heure. Mais dans l'instant, sans remonter aussi loin, je voudrais évoquer un écrivain de Paris aussi, qui est un grand poète non pas méconnu, car il est révéré de la plupart des gens qui s'intéressent de près à la poésie, mais qui n'a peut-être pas la place qu'il mériterait dans l'univers des lecteurs. C'est Jean Follin, originaire comme moi de la province d'ailleurs, parisien relativement tardif, flâneur émérite, mort si l'on veut au champ d'honneur, puisque peu de temps après qu'il m'eût dit, lors d'une promenade où il protestait contre la circulation, il dit « Les voitures tuent la flânerie ». Et c'est en somme la flânerie qui l'a tué, puisqu'elle a été aplatie comme une galette, si j'ose m'exprimer ainsi, en traversant, évidemment, de façon un peu audacieuse, la nuit, le tunnel qui sort sous la place de la Concorde sur les quais. Voici donc, c'est un des plus beaux livres sur Paris que je connaisse, qui s'intitule simplement Paris, qui est paru entre les deux guerres, vers la fin des années 30, qui n'a été réédité qu'une fois aux éditions Phébus en 1978, et qui mériterait largement la célébrité, peut-être même excessive, qu'a acquise un contemporain de Follin, Léon-Paul Fargue, avec son Piéton de Paris. Voici les premières pages de Paris, Jean Follin. Terre et ciel. Un jour, je sentis que sous le pavé de Paris, il y avait la terre, la vieille terre des propriétaires et des partageux. Souvent, le pavé s'est gonflé sous sa poussée. Au soir de révolution, on arrache les pavés, l'on casse l'asphalte et la terre apparaît, une terre maigre, certes, mais qui tente à conquérir les sucs du ciel. On voudrait marcher longtemps vers la ville, accompagné de toute rumeur qui monte des haies vives. L'on verrait dans les villages des enfants jouant sous les charrettes, se suspendant à leurs brancards, de tout petits assis par leur mère dans la charrette même, des idiots de village tellement attachés au sol que certains sensibles les pleurent, qui restent les yeux secs à la mort de leur père ou mère. Dans le regard, passerait l'auto près de la forge et son chauffeur rustique assis près des gerbes d'étincelles. Que de paix il y aurait dans les yeux bleus, dans les yeux gris, dans les yeux mauves de femmes inspiratrices de volupté et taillant du pain dans les soupières ornées. Bien plus tard, l'on cheminerait entre les grandes villas rouges, décors pour criminels et victimes, pour petites filles calmes et majestueuses, mesurant leur taille à celle des soleils du jardin. C'est dans ces villas que restent posées sur de sombres étagères de chêne l'Énéide, l'Iliade et l'Odyssée que les habitants n'ouvrent jamais plus. Enfin, l'on rencontrerait des espaces lépreux après des arbres en fleurs et un tout dernier laboureur sous le ciel fuligineux. Il est des endroits où la terre crève. J'en sais qui, autour d'une église avoisinant l'avenue de Clichy, vont cueillir des pissenlits dont ils font longtemps réduire l'amertume dans des marmites posées sur des fourneaux à gaz. Cependant, les maçons qui rapetassent les tours de Notre-Dame dénichent à l'abri des corniches des nids de pigeons. L'apprenti crie de joie tenant les petits dans sa main rouge et le patriarche des maçons qui fume une pipe de terre ne saurait s'étonner. Autour d'eux volent les martinets et les hirondelles de clochers qui pourtant se font rares, car les émanations de la ville tendent à éloigner la pureté du ciel, mais le ciel vaincra. Aussi faut-il affirmer que les oiseaux reparaîtront et que la vieille à bâton et le mendiant à bissac résisteront aux mirobolantes et si humaines constructions de pierre et de verre, acclimatant la grande géométrie sur la terre. Des mousses délicates continueront à pousser sur les brosses salies laissées à l'humidité de l'évier. Il est doux de traverser Paris comme le village. Il émouvra notre cœur. Le dernier petit cordonnier acclimaté au plus haut étage d'un futur gratte-ciel et qui mettra ses lunettes pour regarder mourir le soleil. Il se réfugiera au Père Lachaise le dimanche, près du tombeau des maréchaux. Mais lorsque le petit cordonnier sera mort, qu'il n'y aura plus aucun de ses pareils, son souvenir subsistera dans une fleur, dans une herbe déterminée, minutieusement classée dans les dictionnaires et qui portera son nom. Excusez-moi. Toutes les filles qui traversent la place de l'Opéra, celles-là qui sont subtiles et belles, celles-là qui sont bêtes, avec de si beaux yeux, savent cet éternel. C'est la connaissance de leur sang, de leur chair, de leurs muqueuses vouées à d'allègres tombeaux. Voilà ce que Paris nous apprend. Ils sont pour durer le ciel et la terre. Qu'est-ce que je dois faire si je suis repris d'une canne de toux ? Pour éviter cette explosion, malgré tout inconfortable pour l'auditoire. Ce dont je voudrais vous remercier aussi, ce n'était pas du tout pour moi, mais à la fin de votre clip, de m'avoir offert aussi en prime, en somme, l'orchestre Tony Truant et le piano brillant de Count Basie. Ces précautions prises, je dois dire, donc la protection de Jean Follin, je veux dire que rien de particulier ne me dispose à parler de Paris, sinon une longue accoutumance. Mais je veux dire, rien dans mes origines, à part un grand-père, né dans le 5e arrondissement, près de la Halle aux Vins, où son père exerçait je ne sais quel métier de commanditaire. Enfin bref, il y a pas mal de pinards dans mon ascendance. Alors, écrire Paris. Puisqu'on écrit souvent des vies, c'est-à-dire des ouvrages appelés biographies, on pourrait qualifier de polygraphie ceux qui racontent des villes, si le terme ne risquait de prêter à confusion. Les écrivains apprécient peu qu'on les traite de polygraphes, avec Y. Mais une fois bien correctement placé l'I et l'Y, sinon surmonté l'homophonie qui fait se confondre les dérivés de polis et de polus, j'accepterais d'être considéré comme un polygraphe, car je suis coupable d'avoir écrit à propos de plusieurs cités. Et ce soir, nous nous en tiendrons à la monopolygraphie un peu disparate qui, à l'honneur ou au détriment de Paris, figure dans 5 ou 6 de mes ouvrages, sans compter de nombreuses occurrences du sujet dans le reste du fatras. Et puis, comme l'indique le titre de cette causerie, je n'ai pas directement en vue les questions pourtant très intéressantes qui se posent quand on entreprend d'écrire sur une ville et qui, bien entendu, varient selon qu'on est historien, géographe, architecte, urbaniste, agent de police, touriste, égoutier ou conducteur d'autobus. Les écrivains eux-mêmes sont d'espèces diverses. Une ville ne joue pas le même rôle dans un essai littéraire que nous dirons hâtivement impressionniste et dans un roman. Et la ville, où un romancier situe son intrigue, différera encore selon qu'il s'agit d'un récit historique, psychologique ou policier. À l'essayiste incombe la tâche de fondre en une seule matière ductile et translucide les matériaux que le spécialiste isole et analyse avec les instruments de son savoir particulier. La question apparaît d'ailleurs plus complexe qu'il ne semble, car les romanciers réalistes ou naturalistes se sont appliqués, dans certaines de leurs œuvres, à restituer les décors, les personnages et les climats de Paris. Pensons à Hugo, Huysmans, Zola, Proust même, non sans des intentions qui les rapprochent parfois du scientifique ou de l'essayiste. De celui-ci, on pourrait dire que ses méthodes ne sont pas éloignées de l'attitude du poète. Il se permet souvent de délaisser l'objectivité de la description au profit des sensations et des sentiments que le spectacle de la ville lui procure. Mais c'est toujours écrire sur ou à propos de, et non s'attacher à illustrer cette formule bizarrement transitive qu'énonce écrire Paris. Il faut dire que personne, sans doute, ne l'a jamais prise au pied de la lettre, ni entendue comme une injonction. Mais quel ait été le dessein profond de la plupart des poètes qui ont, comme on disait, chanté une ville, cela me paraît, pour l'époque moderne, assez certain, s'il est vrai que l'un des objectifs de la poésie est le transfert d'une réalité dans des mots. Ici, donc, en un point où l'on rencontre nécessairement Baudelaire et son spleen de Paris, prototype achevé de toute une littérature non nécessairement parisienne, où l'œil et l'intuition du poète flâneur devancent les spéculations du philosophe et les conclusions du sociologue, il convient, à mon sens, de ménager une place à Mallarmé. Si, selon son mot, le monde est fait pour aboutir à un livre, ou bien plus encore, ce fragment de monde qu'est une ville, en tant que sujet local ou accidentel d'une apothéose du poème. Ne l'aurait-il pas lu tous les poètes qui ont écrit de Paris, ou plutôt de la grande ville, de ses ténèbres et de ses attraits, sont en quelque façon redevables à Baudelaire, de même qu'en marchant, nous acquittons avec chaque pas d'une dette envers le premier Rominien qui s'est propulsé sans l'aide de ses membres supérieurs. Mais quand j'examine la nature du mouvement qui m'a porté durant les 3 années où je n'ai guère été occupé à écrire autre chose que les ruines de Paris, ensuite généreusement salué comme un passable échantillon de l'héritage de Baudelaire, je dois faire état d'un effet indirect. Toute présente qu'elle soit déjà chez l'auteur des correspondances, c'est, je crois, de Mallarmé que j'ai reçu la révélation d'une exigence pour moi proprement intenable, car ma nature m'incline au compromis. Et ce n'est pas sous ce qu'on appelle une influence, en tout cas consciente, de Baudelaire, que j'ai entrepris cette série de brèves promenades, mais bien plutôt à l'exemple, peut-être difficilement décelable, bien sûr inégalable, de cet héritier de Mallarmé tout à fait extraordinaire qu'est, à mon avis, le Claudel de connaissance de l'Est. Quoique le souci mallarméen d'écrire Paris n'ait cessé de rôder et de tournoyer avec mon ombre dans la lueur successive des réverbères, car je marchais souvent la nuit, je ne parlerai donc pas de poésie, qu'elle soit la pure métamorphose rêvée par Mallarmé ou la phénoménale incarnation claudelienne, mais de ce compromis que j'ai pratiqué, le poétique. On sait que le terme recouvre un sens auquel je m'arrêterai, qui possède presque la même diversité dans le poiein grec que notre verbe faire. Faire un mauvais coup, une bonne affaire, une drôle de tête, un meuble, un bon, un poème. D'où l'idée de fabrication, développée en théorie comme un acte par Ponge, ou d'élaboration, dont le plus haut accomplissement serait la poésie absolue du poème sur rien, déjà conçu peu après l'an 1000 par Guillaume d'Aquitaine, et peut-être réalisé dans le célèbre sonnet de Mallarmé, Ses purs ongles, très haut, dédiant leur onyx, l'angoisse, ce minuit, etc. Cependant, fabrication suppose méthode de fabrication, c'est-à-dire un ensemble de règles susceptibles de s'organiser en une poétique, d'où le poétique, le plus ou moins de poésie, pourra sortir. Au tout début du XIXe siècle encore, il suffisait d'écrire des vers pour être catalogué poète, et avec des gradations du trivial au sublime, un trivial et un sublime d'époque, on assimilait la poésie au plus banal de l'art facile des vers. On s'est montré ensuite moins complaisant. On a regardé comme vraiment poétique une poésie parfois de plus en plus assujettie aux règles de la fabrication. Ce fut toute l'école parnassienne. Ou au contraire, depuis les romantiques jusqu'aux surréalistes et à nos jours, de plus en plus affranchis des lois d'une poétique généralisable au profit d'un faire toujours plus individuellement libre et spontané. À l'exception première de ce parnassien atypique, Mallarmé, versificateur moins habile que beaucoup d'autres, parce qu'il attendait justement du vers une transcendance même du formel. Possible qu'ici je m'égare, puisqu'en définitive, c'est en prose que j'ai écrit les poèmes des ruines de Paris et la plupart des textes ultérieurs qui relèvent du même thème, dans un registre dont rendraient mieux compte alors les mots chroniques, voire récits. Mais certains de ces poèmes en prose répondent à la définition baudelairienne du genre, d'autres à un besoin de structuration plus proche de Claudel dans le ressaisissement qu'il opère sur un legs conjoint de Rimbaud et Mallarmé. Et je me suis alors aperçu que ces autres textes que je m'imaginais écrire en prose étaient en réalité structurés comme par des vers, surtout ceux de la seconde partie de l'ouvrage qui s'éloignent progressivement de Paris à travers la banlieue et puis dans les campagnes. Comme si, en somme, j'avais réappris à écrire en me fixant d'abord sur le réseau urbain et par une sorte de parallélisme mimétique, chercher à structurer cette prose non pas sur le modèle d'une ville, mais en fonction d'une autre dynamique d'opposition entre centre et périphérie, extension et recentrement. Et ce que je découvrais me ramenait à cette idée mallarméenne que tout est vers et que si le monde n'est pas fait pour aboutir à un livre, seule cette structure de base qu'est le vers permet au langage de s'édifier avec une manière de nécessité comparable à celle qui semble agir le monde. Plus compliqué que M. Jourdain, il m'a fallu ce passage par la prose pour comprendre la raison d'être des vers. Et c'est pourquoi j'ai ensuite consacré nettement ce partage entre vers et prose, notamment quelques années plus tard, avec un recueil dont la thématique aurait dû, si l'on ne considère qu'un superficiel mimétisme, se développer de façon moins contrainte, puisqu'il y est question de cet espace apparemment non ou mal structuré qu'est la banlieue. J'ai dit, que j'avais probablement voulu faire jouer un effet de contraste, opposer avec une ironie un peu massive le vers compté et rimé au désordre de l'univers suburbain. Or, nulle part il n'y a de désordre, mais bien partout un ordre qui cherche les voies de son accomplissement, souvent lent comme celui de la pensée géologique. Je regrette de n'avoir pas été plus éloquent, plus audacieusement et profondément systématique, encore plus que les ruines de Paris, hors les murs, pour le mieux, participent moins de la poésie que du poétique, lorsque ce n'est pas de l'anecdotique et du frivole, de l'attrait toujours un peu suspect ou un peu misérable du pittoresque et de la dérision. Mais contrairement, semble-t-il, aux fondateurs qui choisissent le site d'une ville, un homme ne décide pas du sien. Ni, et à cet égard plus proche d'une ville ou de certaines villes, des circonstances et des données qui vont déterminer son développement. On ne choisit pas ses pentes, bien qu'on soit dans une large mesure responsable de leur aménagement. Si l'on se trouve fondé en altitude, il faudra bien descendre quand la suite de l'histoire le voudra. Si l'on s'est trouvé établi dans un creux ou dans une plaine, il faudra, pour la même raison, monter, s'élever peut-être tortueusement et un peu de travers jusqu'au sommet des sept collines. Cependant, l'ordre est toujours là, c'est-à-dire que, comme dans un poème, le déploiement ou la stagnation ou le ratage d'une ville sont inscrits dans son commencement. Que le poème ou la ville procède alors par sautes imprévues et paradoxales n'y change rien. Or, ce commencement reste énigmatique. C'est après coup seulement qu'on l'entoure de motifs fabuleux. Romulus poussant sa charrue, Orphée recevant sa lyre d'Apollon, et auquel manque rarement une contrepartie tragique, le meurtre de Rémus, puni précisément pour son geste de dérision ou sa désinvolture, les deux morts d'Eurydice et le sanglant balai final des Ménades. Il faudrait ne jamais commencer. J'entends dans le domaine où l'on peut supposer le jeu d'un libre arbitre. Mais que sait-on ? Et sait-on surtout ce qu'on décide quand on commence à écrire un premier poème ? Que fonde-t-on ? Secrète ou non, quelle en est la contrepartie criminelle ? Rimbaud est le seul qui ait su adhérer à une fin inscrite, elle aussi sans doute, dans son commencement. Il n'a pas renoncé à la poésie, mais lui qui l'avait pourtant mené si loin, détestait de n'avoir en fin de compte atteint qu'un sommet du poétique. Telles sont les questions qu'un vieil écrivain se pose à n'importe quel propos. Généralement, on les escamote afin de rester plaisant. Mais n'oublions pas que le plaisant reste parfaitement exigible dans une causerie. J'aurais dû dire alors qu'une ville est un poème, et qu'un poème est comme une ville, que le sillon circulaire de Romulus, parmi des boulettes de lombric, faisait en même temps se lever les Tarquins et Brutus, Cincinnatus, Pyrrhus et Polémile, Scipion, les Gracques, Pompée, César, et la longue théorie des empereurs puis des papes. Que Paris... Mais qu'est-ce qu'on ignore ? Je suis le seul ignorant. Puisqu'il existe des spécialistes, tous plus savant que moi, je ne me suis pas imposé la tâche superflue de graver dans une mémoire rétive des noms, des dates, des configurations de lieux. Tout change incessamment, comme longtemps après Baudelaire l'a répété Queneau, et cette autre tâche de décrire est un leurre dont je me suis lassé. D'ailleurs, je n'ai peut-être essayé de fixer que des instants. Ceux où, de façon assez mystérieuse, coïncide la présence d'une ville et l'aphonie particulière qui précède la remise en marche du rouet des phrases ou des vers qui sont les rues de l'esprit. La présence énorme d'une ville tout à coup, suspendue au râtelier d'une boulangerie où brille l'or roux du pain, le gosse qui rentre en trottant avec sa baguette, ces touffes d'herbe dont je réapprends et repère le nom, qui poussent infatigablement partout parce qu'elles remporteront la victoire, un carreau qui renvoie le soleil couchant rue de Grenelle ou à la butte aux cailles, les millésimes marqués au fer dans le goudron des trottoirs, les petites négresses qui papotent en fumant dans un square de la rue de la Duée, les rails de la gare Saint-Lazare qui tricotent ou détricotent machinalement la tunique de vent de l'infini, les tribunaux des cheminées, la cascade et le parfum des fleurs des acacias en mai dans la tranchée de la petite ceinture, cette jeune femme qui me commençait à me faire perdre la notion de mon âge et qui, se trompant sur une insistance discrète de mon regard, me dégrise en m'offrant tout à coup sa place assise dans le métro. Oui, ce que j'aime, pêcheur impénitent mais absous par l'indulgence de sa mémoire, c'est commencer. Évidemment, je recommence à écrire, à circuler. Dans l'instant, toutefois, j'en ai à peine conscience. Je suis de nouveau un autre et qui vient de naître en tel ou tel endroit de Paris. Mais j'aurais pu naître, puis renaître, et cela s'est fréquemment produit à Vienne, Prague, Dublin, Lisbonne, Toulouse, Lyon ou Bologne. J'avais bien commencé ailleurs. Mais si l'on en croit ce que n'ose appeler ma théorie, il faut supposer que Paris m'attendait fatalement au virage. Une fois accompli, l'aléatoire de toutes les vies prend cet aspect de fatalité. C'est leur dimension fabuleuse. Mais pourquoi moi qui aurais pu regimber? Sans doute parce que j'ai un fond fataliste, que je me prête comme un livre qu'on ouvre, qu'on feuillette sans vraiment le lire, qu'on referme avant de le rouvrir au hasard. Un livre ou un cahier dont chaque page recouvre sa virginité à mesure qu'on y avance, et chaque page suivante invite à recommencer, peut-être avec l'arrière-pensée qu'ainsi l'on arriverait à suspendre ou à dérouter la fatalité de la fin. Il conviendrait alors de renverser la formule « Paris m'aura écrit ». Et de quelle manière, c'est ce que nous verrons, nous allons voir rapidement, en résumé, dans une deuxième partie de cette séance qui, j'espère, n'est pas trop proche de sa fin. Et avec une sorte de petit florilège de divers textes écrits donc sur Paris, en commençant par, non pas les plus anciens, mais enfin, ceux qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler un vague cycle parisien du personnage. Alors voici donc déjà quelques textes écrits des ruines de Paris, qui est paru en 1977, qui était d'ailleurs réédité dans la collection collection Poésie, à un prix beaucoup plus accessible que celui de l'original. Plus lugubrement amnésiques les unes que les autres, malgré leur nom, lui qui se souvient, rue de la Fontaine au Roi, rue de la Pierre Levée, rue du Moulin Joli. Cependant, les rues montent et je m'élève avec elles. Une impasse qu'un arbre illumine m'arrête. Mais ce n'est pas en curieux que j'avance contre les façades de bois noir. Je réponds à ce qui cogne derrière leurs portes clouées, au feu plongé dans l'arbre, ou peut-être aux deux à la fois. Comme s'il fallait enfin maintenant que je les départage. Mais ce vieux piège m'a déjà pris. L'illusion qu'un destin espère encore, bienveillant, se répète, et je me tiens juste au bord. Entre le rayon qui tourne et l'ombre condamnée, je ne bouge plus. J'ai l'impression que le ciel distrait, en haut de la rue des Couronnes, va prononcer pour moi. Puis quelqu'un, à plusieurs reprises, crie d'une voix compacte « Mohamed, Mohamed !» Et presque du même coup, derrière les pans de linge qui tremblent, 5 ou 6 fenêtres s'entrouvrent, aussitôt se referment. Le bon Mohamed n'est pas là, tout le monde cherche. Il porte un pantalon de bleu et une veste, sans doute pas de vrai cuir, mais neuve et qui paraît solide. La casquette aux armes de la ville est bien enfoncée sur son front. Ayant la haute main sur les bouches à eau de son territoire, il déchaîne du ciel en torrent au creux des caniveaux. Lui-même discute avec un autre encore en stage dans un doux dialecte aquatique, sans lâcher l'instrument insigne qu'est son balai de fagot. J'en ai vu qui m'ont inspiré des émois de tragédie parce que le Fatum se déclarait dans leur stature de roi captif. Il n'y a pas moins de noblesse dans la leçon qu'offre cet homme, bien qu'elle s'affirme d'un caractère plutôt républicain. Il réincarne le potentiel contenu dans l'idée de république, un peuple, un sénat, des licteurs, une vertu et le report de sa dignité indivisible sur les gens chargés de travaux dans les bâtiments, la voirie, les jardins. Témoignant d'une compétence et de la nécessité, donc de la beauté d'une fonction, ce balai vient réabolir hiérarchie, privilège et, de l'étoile à l'alma, rétablir quelque chose du sens commun dans les rues envahies de cadres en costume mastique qui signent et téléphonent. Certains cherchent à se camoufler d'ailleurs, à passer pour des artistes, des maquisards, mais aucun n'approche la contenance honnête du balayeur comme être utile et libre et comme symbole. Symbole de quoi ? Non pas de l'ordre, mais bien d'un ordre évolutif, alors républicain, avec son prolongement universel dans une citoyenneté d'empire plein de particularismes qu'on respecte ou qui se défendent, et de parler sous une langue véhiculaire actif dans leur recoin. Je devrais tirer maintenant de nettes conclusions politiques, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail est de voir, de décrire et de balayer, en somme, sans excès de zèle, mais avec conscience, comme ce collègue noir. Voici un texte qui opérait à la transition entre la partie proprement parisienne de l'ouvrage et sa partie consacrée à la banlieue. Alors, c'est ni chair ni poisson, si vous voulez, c'est-à-dire quelque chose qui m'énerve à présent, c'est-à-dire c'est un poème en vers mal mesuré, en vers libre, pas tellement différent de la prose, et une sorte de nostalgie du vers. La nostalgie du vers est partout dans la prose, même dans un article de journal ou dans une notice pharmaceutique, à mon avis. Mais, de même, le vrai vers, lui, comme ceux de Baudelaire en particulier, aspire avec humilité d'une certaine façon à la prose. À cette heure, où comme avant le jour, tout redevient calme et bleu, j'ai regret des champs et forêts qui devaient être si proches, de l'endroit où cessaient dans la boue et l'herbe les gros pavés. Après quoi, le chemin roulait entre des carrés bleus de légumes, sous les branches presque nues et basses des vergers bleus, les mêmes nuages comme des chapeaux glissant au ras des vignes, le même ciel s'avançant en personne par les fourrés, je veux dire, tel qu'une vraie personne que l'on salue. Et puis, comme dans ce rêve qui depuis 2 ans m'est si souvent revenu, où j'atteins une dernière petite place au flanc de Montmartre, elle rêve même de la ville enfin se dévoile, et c'est ainsi. Des bois sombres, des chevaux rouges, des collines et des champs dorés, on entrait dans la profondeur muette de la campagne. Gentilly, Châtillon, Montreuil, Vanves, Clamart et Saint-Cloud. Mais surtout le nord troublait à cause d'un fort regain d'espace. Toutes ces plaines étirant jusqu'aux mers leurs fins sillons et qui, mal jointes au bord de l'Oise, au bord de l'Aisne, au bord de l'Ourcq, vides le long des routes martelées par le fer et les étoiles, gonflent et grondent encore comme d'immenses papiers d'emballage, le nord. C'était un temps de malheur des gens, mais de leur forte innocence. Aussi pouvaient-ils rencontrer la Sainte Vierge ou le bon Dieu quand ils relevaient leurs yeux analphabètes de l'épaisse terre, éclore était celle-ci qui dure, tandis que j'écris, bleu et calme comme l'intérieur d'une perle d'eau mystique, là où je n'aperçois qu'un doigt de ciel par-dessus le béton et où, ne manquant ni de pain, ni de chaleur, ni de chemise, disposant de merveilleux moyens d'hygiène et de communication, remboursés lorsque je suis malade et mécontent de mon sort, J'essaye de voir ce bleu comme avec des yeux de pauvre, de le retenir, lui qui va si vite par les pans troués de son manteau. Mais il s'enfonce au nord, sous les ponts du périphérique. Misérable comme ces nègres que j'ai vus là-bas près d'un feu, le vieux feu de vieux bout de bois des sacs de l'espérance. Alors ça, c'était le début de cette insistance sur le thème de Paris. Quelques années plus tard, parut un recueil qui était presque entièrement composé de poèmes mesurés, nombrés, rimés, et qui était lui-même progressivement banlieusard après quelques pages comme celle-ci, qui évoque une sorte de calendrier. Alors, on va aller le mois de juillet. Juillet au quai de la gare. Un peu trop vrai dans les abus d'un couchant vert et rose, avec ses fenêtres, 18, obscures, sans rideaux, où les deux rivages du temps gelé se superposent, et ces deux ciels que la nuit mange, attachés dos à dos, l'autel des deux ponts n'est peut-être pas qu'une hypothèse. Un chien, quand on approche, aboie, et la fausse épaisseur lui fait écho jusqu'à Bercy, dont les arbres se taisent, chacun masquant au long duquel l'ombre d'un agresseur. L'autel des deux ponts n'a pourtant qu'assez peu d'existence, car il est rempli des sommeils du cœur inhabité. Pour y dormir seul, il suffit d'avoir payé d'avance et franchi l'un des derniers ponts de la fatalité. Quand le nom qu'on portait devient un hoquet de l'eau noire et que sous la corne de lune, hissant des entrepôts, les rails qui filent sans bouger à travers la mémoire n'y jettent plus que des lueurs hostiles de copeaux rabotés par le vent qui sait le fin mot de l'histoire. Tant pis pour l'ordre chronologique. Voici maintenant Mars à Meudon. C'est toujours un peu Paris, n'est-ce pas ? Cette lumière d'une main distraite m'escamote après chaque virage et puis me restitue au gré d'un ciel fou qui rumine et va, comme de motte en motte, par les côtés que sans les voir, par les coteaux que sans les voir, contemple un immigré soliloquant au bord de l'eau contre une balustrade. Le passage étroit se faufile entre un bout d'autostrade et ce bras dormant aux chalands en bois peinturluré qui pourrissent sous des jardins qu'étouffe la lésine des anxieuses, des pauvres, sûrs qu'un jour tout peut servir. Et tout à la couleur des jours ouvrages ou rouables ou l'usine déverse un bouillon jaune où doit surnager l'Elsevier de cubes dont les gros traits semblent comme un échafaudage tenir debout l'autel qui prend des airs de brigandage avec un seul œil à l'affût dans l'ombre du viaduc. Ôter les jardinets à choux montés, ces piranèses qui m'aspirent dans sa chimère aux 500 marches du côté des cabanons blottis là comme la punaise dans un fouillis de forêt vierge au feuillage caduc et des gringolantes éperdues en rouleaux de ficelle. L'encre des cèdres qui remonte au bon Cadet-Roussel reste indélébile dans l'air humide où les abois des chiens boxent avec une cloche en coton qui danse. Déjà, l'arnoise neuve et la proximité des bois de Meudon rendent nécessaire un effort de prudence. Mais l'impalpable giboulet où tout se fond bientôt m'aura dissimulé dans les replis de son manteau qui flotte sur l'envers du temps dont décroît l'évidence. Je peux attendre l'autobus sous ce doux asperges de mars. Il pleut. Ou il pleuvait. La pluie, a dit Borges, est quelque chose qui sans doute a lieu dans le passé. Pour revenir de façon plus directe, peut-être plus documentaire, à Paris, j'ai choisi un ou deux, si le temps nous reste, passage de Château des Courandères, une succession de textes qui partent du 15e arrondissement pour aller s'achever vers une gare, en traversant divers endroits typiques et particuliers de Paris, hein, c'est-à-dire un jardin, un passage, une église, et sur ce chemin, le jardin se trouvait le Luxembourg. Il est possible que je change d'avis un jour ou l'autre, mais que j'en change ensuite de nouveau, pour revenir à cette considération bien simple, même évidente, et par conséquent au-dessus de toutes les opinions, que le Luxembourg est le seul jardin de Paris qui possède à la fois tout ce qu'on désire, en fait de poésie confortable, de majesté, de grand air libre associé à un classicisme et à un rapport d'intimité immédiate, quoique pas trop familière, avec les plans de nature bien apprivoisés qui l'enclos. Aussi, dès que j'éprouve le besoin de remettre de l'ordre dans mes idées et de l'espace dans mes impressions, ai-je recours à lui comme à un livre, à une musique, ou à l'un de ces maîtres d'autrefois qui, en marchant, délivraient un enseignement peu distinct de celui de la promenade, quand elle a lieu dans un endroit déjà tout imprégné de mesure et de grâce, sur un fond d'infini civilisé. Je ne méprise certes pas les squares, nombreux et souvent pleins de charme dans mon arrondissement, mais curieusement, ils me dépaysent et peut-être même m'angoissent un peu pour des raisons qui tiennent sans doute à l'esprit étrange du 15e, comme on le sent bien sous le couvert obscur du square violet ou au square Saint-Lambert, dont le tracé en apparence banal et neutre dissimule on ne sait quoi de dangereusement hagard. Or, il me semble rejoindre au Luxembourg une vraie patrie spirituelle où rien que d'édifiant, de fortifiant et de limpide ne peut survenir. Et dès lors, il va de soi que lui manque un certain pittoresque. On en trouvera au but de Chaumont. À vrai dire, sous cette forme assez laborieuse et presque parodique, où l'intention se fait trop sentir et, en fin de compte, donne un résultat déprimant. Un jardin n'a aucun besoin d'imiter des gorges et des collines. On voit tout de suite qu'il n'est pas cela, et que cet effort sans issue et sans modestie lui a fait perdre jusqu'à la faculté de rester tranquillement un jardin. Sûrement ne doit-on pas négliger l'apport de l'artifice, susceptible de bonheurs intermittents, quand l'illusion du naturel l'emporte sur la réalité sensible. On ne circule plus alors dans un jardin raté, ni dans cette espèce de mirage où un instant peut flotter n'importe quoi ce qui surprend notre émotion, une pullulante aire de banlieue, un terrain vague, sournois, mais de l'autre côté fictif des choses, si attirant au fond des gravures maladroites dans l'épaisseur opalescente des lampes où l'on pénétrait à 8 ans. Le Luxembourg a cependant aussi du mystère, spécialement en été dans l'ombreux sous-bois qui se situe entre l'allée centrale et la grande serre en briques gardée par Phidias, où des niches abritent des bustes de peintres et de sculpteurs, rudes, bien reconnaissables à sa barbe de sapeur Deuxième Empire. Il y a là de très hauts marronniers dont les branches les plus basses vous effleurent presque le front et qui tombent au loin en franges épaisses au-dessus de la balustrade, montrant par une longue fente horizontale un pays lumineux, peuplé de fleurs multicolores, de statues blanches et de palmiers. Ces figures qu'on aperçoit sont des sujets mythologiques, mieux en vue sous cet angle que les 18 reines ou grandes dames plantées dans l'alignement des arbres et qui se ressemblent toutes plus ou moins. On serait fort incapable, quand on en a fait le tour, de dire en quoi Marie Stuart se distingue de Blanche de Castille ou Laure de Nove, c'est la Laure de Pétrarque, de Jeanne d'Albret. Chacune présente ce doux éron modelé de la joue acquis par la fidélité conjugale, la prière, l'aumône, une longue patience en haut de donjons dont l'on ne voit jamais rien venir. Il faudrait posséder l'histoire dans certaines de ces plus inextricables périodes pour s'intéresser à ces nobles personnes très sincèrement. Plusieurs feraient une convenable république. Quelques-unes, rarement les mêmes, offrent indifférentes un pigeon où se retrouvent tout à coup coiffées d'un palpitant chapeau de plume. Mais de l'endroit d'où nous observons, je le répète, on les discerne mal. D'ailleurs, elles sont un peu grisâtres, alors que les imitations de l'antique fusent comme des jets de céruse sur le brouillard irisé de parterres audacieusement fleuris. En effet, tout s'y mêle, du vermillon strident aux mauves bleues absorbées muets sous d'autres fanfares de jaune. Le plus curieux d'entre ces monuments blancs échappe au canon de tous les styles. Le profil de Scheurer-Kestner s'y frappe en médaillon au-dessous d'un petit obélisque. Rien de ce qu'on sait sur cet industriel libéral et Dreyfusard n'explicite clairement le symbolisme qu'il immortalise en face du grand bassin. Il y est flanqué de deux jeunes filles, celle de droite dans une nudité totale, mais si pudique qu'elle élève les sentiments. Il n'en va pas de même, je le crains, avec les demoiselles en jupette qui font beaucoup pour populariser le tennis sur les courts situés à l'orée du couvert dont je parle. Mais c'est un sujet différent. En somme, je ne pensais qu'au palmier. Et je n'y pense pas sans regret pour deux énormes rotondes trapues à toit conique s'effilant en cheminée, exemple probablement unique d'une ébauche d'architecture sino-normande qu'on admire là. Ni pour les guérites où la même veuve mélancolique depuis toujours propose des rafraîchissements tièdes et une pauvre pacotille qui seule tant soit peu évolue, le plastique qui a supplanté le métal et le bois, aux enfants toujours prêts à en subir l'attrait sans âge. Mais poursuivons. Franchi cette petite forêt de marronniers obscure et fraîche, et dont les fûts paraissent trembler comme l'eau dans l'eau d'un étang, on débouche contre la balustrade devant l'étendue creusée avec douceur. On dirait une large et peu profonde cuillerée d'espace dont le bassin occupe le fond et que le palais, à un bout, à l'autre l'observatoire, équilibre délicatement avec son contenu de fleurs, de voiles et de personnages qui flânent. On y trouve aussi ses palmiers, au nombre de 8, admirables de santé dans les grosses caisses vertes d'où ils s'élancent, tel le jet d'eau, non d'abord sans quelque lourdeur du tronc garni de ficelles fibreuses, comme si livrés de la veille, on n'avait pas encore pris le temps de les déballer. Mais ce détail contribue à les rendre sympathiques, avec on ne sait quoi d'un animal pâteau, poilu, bien que la courbe des palmes semble résoudre avec une grâce extrême les tensions contradictoires du rêve et de la nécessité. Le rêve, c'est l'envol de ces tiges que la force de la pesanteur, inéluctable, rabat, mais voluptueusement. On assiste sans lassitude à cette leçon élémentaire sur une possible et naturelle perfection de l'art. Si tous nos gestes et toutes nos phrases ressemblaient à des palmes, le monde deviendrait pacifique et pur. En tout cas, il n'est pas étonnant que le palmier ait pris un caractère d'emblème qu'il manifeste à plein déjà rien qu'en existant. En dehors du sapin que déteste Gide et dont le port reproduit en somme le jet de la palme, à l'envers, on ne connaît pas un autre type d'arbre emblématique à ce point, aussi proche de son être allégorique, de son épure, et capable d'évoquer aussitôt une civilisation entière et son climat. En vérité, l'univers se partage en deux grandes parties, celle de patrie, celle du palmier, celle du sapin. L'un semble représenter un toit, la protection, mais l'enfermement de la famille. L'autre fuse comme le désir en liberté dans un ciel purgé de Dieu. En bonne logique géographique, ce sont donc des sapins qui devraient faire l'orgueil du Luxembourg. Or, ils y sont rares, au contraire. Et dès que la saison le permet, on voit apparaître ces palmiers qui ont certainement frappé Gide dans son enfance et qui, cependant, loin d'introduire une note d'exotisme extravagante, parachève l'impression d'accord harmonieux du jardin. Sans doute est-ce une note méditerranéenne, mais italienne plutôt qu'africaine, si l'on songe à Marie de Médicis et aux artistes qui ont œuvré dans le voisinage, Visconti, Servandoni. Surtout quand un soleil de Riviera joue sur l'éblouissement tendre des parterres et de leurs coloris inspirés, sur les bouquets d'épaules roses, brunes, ocres, ébènes, qui parfois s'y épanouissent, tandis qu'un vent tiède véhicule des bouffées épicées de pissadane, de crottin, et drosse sous le jet d'eau chauconneur et vedette l'enstorpille. Pourtant, le ciel se couvre et reconstitue le beau fond gris parisien où les teintes chantent sur un tout autre mode, sans mélancolie, quoique mineure, et la scène acquiert sa singularité la moins définissable. J'aime alors spécialement un point d'où l'on peut voir surgir entre deux de ces palmiers les tours de Saint-Sulpice. La composition satisfait profondément par un mélange de pèse et de forte activité métaphorique dans les remous de vieil or conceptuel que balancent les cloches du soir. Accoudé à une balustrade, le spectateur se sent à son tour inclus dans le tableau. Et si ce tableau existe, comme on en peut douter, c'est peut-être qu'un autre regard encore le contemple, et ainsi de suite, avec bienveillance et délectation. Je terminerai peut-être, puisque le temps passe, avec un ou deux textes inédits. J'aime bien lire des textes plus récents, parce que les anciens, je les connais, et peut-être je manque un peu d'enthousiasme pour eux maintenant. Il faut toujours faire autre chose. Seulement voilà, il faut que je les trouve. Peut-être que par chance pour vous, je les ai oubliés. C'est bien possible. C'est bien possible. Auquel cas, non. Alors, ce sont des textes plus récents et qui ont pour objet d'autres quartiers de Paris. Alors, il y a le 20e. Le 20e arrondissement. La baguette. À 9h du soir, un dimanche en été, comment trouver une boulangerie ouverte? Il avait plu continuellement. La lueur verte d'une vague éclaircie au couchant du côté des hauteurs de Saint-Cloud et Sèvres calcinées découpait les feuillages bas du boulevard, sans dissiper dans l'air aussi mou qu'un buvard humide l'ombre morte où j'allais. Mes journées s'achèvent très souvent ainsi par un grand tour machinal à travers des quartiers sans surprise. On marche pour marcher, on se volatilise, on n'est plus qu'un reflet mobile du faubourg. Étais-je moins distrait le soir de ce dimanche? Est-ce que je croyais avoir besoin de pain? Je me passe pourtant assez facilement de pain, de biscottes ou d'autres denrées. En revanche, la ration d'asphalte est vitale. Donc j'ai bientôt vite oublié ce motif de ma course pour m'enfoncer dans l'aube égale vers la source de lumière filtrant à l'horizon figé. C'était une autre ville et dans une autre époque, cependant la même heure et la même saison. Et moi, comme un voleur évadé de prison, je n'étais plus ce vieux passant qui soliloque, mais un libre arpenteur du cadastre divin. Aucun mal à présent, pensais-je, ne me guette, et je tenais comme un talisman la baguette achetée à son prix d'alors, 4,20 francs. Gamine rue Sorbier. Vers 7h, le square est tout à fait tranquille. Elles viennent fumer à quatre sur un banc et discutent avec l'accent de Belleville, sans même percevoir ma présence. Un ruban d'un vert surnaturel sur les toits se déroule et le square s'en va, mince comme un vaisseau plein d'ombre. Je me laisse aller avec la houle et le chuchotement du vent comme un ruisseau dans les agrès de la voiture des élantes. Elles fument toujours, parlent en s'esclaffant, et si je m'en mêlais, deviendrait insolente. La plus jeune et plus noire est encore une enfant. Je les appellerai des petites négresses, bien que le mot paraisse incorrect aujourd'hui. Leurs cheveux arrangés en minuscules tresses se hérissent, leur œil roule en boule et traduit l'enchantement de soi dont s'étourdit la vie. Ils reflètent et saisissent, sans même s'en douter, le rayon vert du soir qui s'allonge, dévie, se perd dans les feuillages. Mais l'éternité balance dans ses bras les petites négresses, et l'une ou l'autre, un jour, se souviendra soudain de ce soir éternel. Déboires et détresses alors s'apaiseront au fond de ce jardin. Pour finir, aux arènes, retour au 5e arrondissement, naquit mon grand-père. C'est la statue de petite liseuse qui se trouve sur la droite quand on entre par la rue des Arènes. La petite lectrice des Arènes de Lutèce, que lisait-elle dans ce gros volume? Était-ce un catalogue, un manuel ou quelque insipide roman? Je dis, elle lisait, alors qu'apparemment, rien ne peut l'empêcher de lire encore des années. Elle est en marbre blanc. Des voix époumonées montent du milieu de l'arène où l'on joue au football. La lumière laiteuse y mousse dans un bol. Tout autour, des arbres savants s'adressent des harangues, des amoureux muets s'instruisent de leur langue. Cependant, la liseuse lit, mais lit-elle vraiment? Si l'on observe un peu ce petit monument dont l'art aimable a désarmé la raideur de la pierre, on voit bien que les yeux, sous la fine paupière, se portent au-delà de l'ouvrage, sur le gazon précis, ou bien plutôt vers un vague horizon qui déjà flottait entre deux lignes de la lecture. Non, elle ne lit pas, mais elle s'aventure dans ce monde aussi délicat et pâle que ses traits. Car je n'ai pas noté que la liseuse est très jolie. Elle ne lira plus. Elle attend que paraisse sur la page ennuyeuse et que sa main caresse l'ombre d'une autre main attendue. Alors, en claquant le livre d'un seul bond, elle foutra le camp.
Bonsoir Monsieur Reda, merci pour ce moment agréable. J'étais contente d'entendre à la fin de votre conférence des textes nouveaux justement, et je me demandais si aujourd'hui vous pouviez encore, vous écriviez encore sur Paris, puisque je vois que oui, que vous nous aviez donné la réponse.
Excusez-moi, mais le son paraît une bouillie complète.
C'est très... Essayez.
Est-ce que vous m'entendez là? Non.
Alors oui, attendez, oui. Je deviens peut-être un peu sourd aussi, hein.
Bon, je peux essayer de parler plus fort.
Bon, voilà. Pas de type.
Je vous remercie pour ces textes nouveaux que j'étais contente de découvrir, et d'autant plus que vous disiez qu'ils sont inédits. Je voulais savoir, puisque c'était le sens de ma question et que je l'avais préparée avant de vous entendre, si aujourd'hui vous écriviez encore donc, sur Paris, et j'ai vu que oui. Et je voulais savoir si vous arriviez encore à écrire sur la banlieue aujourd'hui et ce qu'elle vous inspirait quand on lit les textes que vous avez écrits dans les années 70. Il y a quelque chose de cette banlieue qui remonte au 19e siècle que l'on sent encore, qui me semble-t-il a disparu aujourd'hui. Je voudrais savoir si ça peut encore vous inspirer.
Alors, oui, la vieille banlieue... n'a pas tout à fait disparu quand même. Non, je le connais. J'ai surtout, par paresse, j'ai toujours exploré les banlieues les plus proches de mon domicile. Habitant le sud du 15e, j'allais plus volontiers à Vanves, Clamart, enfin bref, toute la banlieue sud. Depuis que j'habite le 20e, je vais plus volontiers à Bagnolet, après Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil. Et il subsiste quand même pas mal de choses, même aux Lilas. Ce qui change, c'est la fonction de la banlieue. C'est de plus en plus ce qu'on appelle le secteur tertiaire. On voit les vieilles usines qui ne disparaissent pas, d'ailleurs, parce que maintenant, on garde tout. On garde tout. Une vieille usine moche, on se dit, oh, c'est quand même un témoignage, etc. Alors, on la garde. On la garde, et à l'intérieur, il y a des ordinateurs avec des gens qui font on ne sait pas quoi, qui sont vêtus comme vous et moi, et je ne sais pas ce qu'ils sont, mais c'est le secteur, c'est des choses. Bon, très bien. Alors, malgré tout, ce qui est appréciable dans la banlieue, il faut y aller le dimanche, il n'y a personne, voilà, personne. D'ailleurs, en semaine, non plus. Je me demande... Non, c'est très curieux, Paris est très étrange pour ça. Mon arrondissement, si on exclut quelques grandes artères comme l'avenue Gambetta, la rue des Pyrénées, la rue de Ménilmontant. Je dis, mais où ils vont ensuite? Ça justifie un peu le... Je suppose si Roger Caillois, qui a écrit ce petit livre merveilleux sur le 15e arrondissement, dont il parlait des immeubles plats, où ne logeait personne, sinon des êtres capables d'habiter dans ce... S'il avait pu connaître le 20e arrondissement et d'autres endroits de Paris, c'est étrange, ça, oui. Alors, oui, mais non, je n'écris plus beaucoup sur Paris, c'est-à-dire que Je ne dis pas que Paris m'ennuie, le 20e. Voilà, j'ai un livre en préparation qui doit paraître en Suisse d'ailleurs. Je préférais que ce soit en Suisse pour ne pas avoir d'ennui. Et qui s'intitule Le 20e me fatigue. Le 20e arrondissement, bien sûr. Le 20e arrondissement. Donc je ne peux plus beaucoup écrire sur Paris parce qu'il me semble avoir fait non pas le tour de Paris, mais le tour de ce que je peux faire, moi, sur Paris, et se répéter tout le temps, c'est plus possible.
Je dois vous dire que j'ai passé un moment heureux. J'ai voyagé avec vous, M. Reda. Vous avez indiqué, enfin, vous avez parlé des jardins, des parcs. À ce sujet, j'aurais une question à vous poser. C'est au sujet du parc André Citroën, lieu de mémoire, lieu où il y a eu des usines et qu'on a remplacé. Tout proportion gardée, il en est de même aussi avec le parc Georges Brassens aujourd'hui. J'aimerais savoir justement si ça vous inspire. Voilà, c'est ma question. Je vous remercie.
L'inspiration, je ne sais pas très bien ce que c'est. J'ai des idées, mais changeantes, quelquefois. Vous savez, il y a l'écrivain du XXe siècle, ou même de la première moitié du XXe siècle, ou du XXe siècle, que je place au-dessus de tous, Charles-Albert Saint-Gréa, disait, je sais bien, je dirais le contraire tout à l'heure, mais tout à l'heure et tout à l'heure, et maintenant et maintenant. Alors, je le trouve très laid, ce parc André Citroën, bien. Je ne dis pas que les usines Citroën étaient une merveille. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on dirait, touchez pas, monument historique, architecture industrielle, etc. Ouais, j'ai bien connu les usines Citroën quand elles fonctionnaient, puisque j'habitais le 15e depuis 1952. Elles fonctionnaient encore. J'ai connu l'époque où elles ont fermé, et j'ai même filmé. En 8 mm, j'ai encore deux ou trois bobines des démolitions de Citroën avec les tracteurs énormes qui tiraient sur les piliers de fonte et de fer et toits qui se battaient. Ça, c'est quelque chose, chaque fois qu'il y a un carnage comme ça, on se dit oui, c'est dommage, dommage, mais enfin, comment faire si on était sûr que. Si on est sûr que ce qu'on va mettre à la place des choses qu'on démolit seront plus belles, alors là, oui. On ne se posait pas ces questions autrefois. Au XIVe siècle, on ne se posait pas la question de savoir si ce qu'on avait fait au XIe était plus beau ou moins beau. On construisait dessus, on le démolissait, et c'était bien aussi. Alors, voilà, maintenant, on ne sait plus faire grand-chose, hein, je le crains. Et donc, voilà pour Citroën. Et pour le Brassens, on a gardé ce qu'on a pu, c'était les abattoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire des abattoirs? Qu'est-ce qu'on fait? On fait dans les abattoirs, dans les gares, dans les grandes choses comme ça, qui, une fois privées de leur destination, deviennent à garde. Être une gare, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de train. Il y a de quoi devenir fou. Vous sentez d'ailleurs que les gares sont un peu folles, les gares abandonnées, ou alors déprimées à mort. Alors on fait de la culture, ce qu'on appelle. On fait de la culture. La polyculture. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Des médiathèques, par exemple. Il y a des patelins. 850 habitants qui avaient une gare un peu vaste parce que c'était un nœud de communication qui allait. La gare, on n'impose pas de la démolir, elle est grande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une médiathèque. Et puis, une fois par an, on expose les peintres locaux. Hein, je ne sais pas si on va raconter ça. Alors, j'ai vu aussi, du jour au lendemain, un jour. J'ai beaucoup de liens et d'ascendants en Bourgogne, où j'avais à une époque une maison même. Et un jour, pas très loin, une petite chapelle romane que j'allais dessiner. Et près de la chapelle romane, il y avait une gare, pas romane évidemment, mais disons du, quand même, toute proportion gardée, du roman, un peu romane dans, pour, par rapport à ce qu'est le style des gares. C'est-à-dire une gare, quoi. Hein, pas une gare qui cherche à ressembler à autre chose ou à se dissimuler, comme l'actuelle gare Montparnasse ou celle qu'on construit sournoisement. Hein. Alors, je dessinais ça, et puis j'étais dérangé, j'étais assis sur le muret d'un grand potager où il y avait des choux, et le propriétaire du potager est arrivé extrêmement soupçonneux, pensant que j'étais venu pour lui dérober des choux. C'est bien, je suis parti. J'ai évacué les lieux, je n'ai pas d'histoire, je les connais. Et je suis revenu le lendemain. Alors je me dis, tiens, c'est quelque chose a changé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La chapelle est toujours là, mais c'était la gare. Alors on m'a expliqué, oui, dans la nuit, une machine spéciale était venue, une machine à déraciner les gares. On avait attrapé la gare comme ça. Et je suis allé voir de près, et en effet, il restait le tracé, il y avait le tracé rectangulaire des quatre murs, et puis la petite cloison qui devait séparer la salle d'attente, la salle d'attente, non pas des pas perdus, la salle d'attente des guichets, et tout était parti, y compris le logement du chef de gare.
Oui, j'ai particulièrement apprécié votre balade en Paris, et plus particulièrement le jardin du Luxembourg. Vous avez fait une description vraiment extraordinaire, d'autant que je connais particulièrement ce jardin pour y habiter à côté.
Ah ben vous avez de la chance.
J'ajouterai quelque chose à ce jardin, en plus de ce que vous avez ajouté, c'est que il a été le seul à accueillir quelqu'un que personne ne voulait, pour diverses raisons. Ce quelqu'un, c'est Pierre Mendès-France. Le jardin de Luxembourg a été le seul jardin à accueillir son bronze, alors qu'il était refusé sur des places de Paris, dans tous les jardins. Voilà, je voulais ajouter ça pour le jardin de Luxembourg, en plus de tout ce que vous avez dit. Par contre, alors...
Sur mais qui cartes, a... J'ai pas compris qui il avait accueilli.
Pierre Mendès-France.
Ah, je croyais que vous vouliez parler de Verlaine. Moi.
Ah, mais non, mais Verlaine... Ouais. Verlaine, oui. Verlaine, il y a longtemps.
Mais c'est Pierre Mendès-France, c'est en effet curieux. La première fois que j'ai rencontré Pierre Mendès-France, naturellement, c'est au Luxembourg, vous ne pouvez pas le rencontrer ailleurs. On est surpris parce que c'est ces photos un peu, ces œuvres un peu hyper réalistes qui représentent les gens tels qu'ils sont. Il a les mains dans les poches d'une gabardine. Ça se fait, la gabardine. Autrefois, on nous aurait foutu une toge, vous voyez, à la romaine. Alors, il est là dans sa gabardine, c'est curieux. J'aime beaucoup aussi Léon Blum, comme ça, à Place Voltaire. Parce que lui, il a une cape et un chapeau un peu gidien, c'est de la même époque. Ils étaient de la même époque, c'était des copains. Et il est là, il regarde dans la direction, on ne sait pas, de la République, peut-être. Et oui, il y en a beaucoup. Il y a aussi Bartók Béla. Béla Bartók, je prononçais à la hongroise. Alors la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que j'arrivais, je le voyais de dos. Et je voyais de dos un monsieur dans un grand manteau, les mains dans les poches d'un grand manteau que manifestement il entrouvrait. Et arrivait, je ne vous mens pas, arrivait en face une petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait, 10 ans, avec une boîte à violon, avec son violon, elle venait de prendre, où elle allait prendre, c'est le soir, avec Bartók. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'approuve absolument ce genre de statut, mais si je ne préférerais pas qu'on les mit toutes un peu à la romaine, après tout, nous sommes des romains. Enfin, voilà. Mais vous avez vu que c'est. Enfin, je ne veux pas. On ne sait pas, il y en a peut-être un dans la salle. C'est les sénateurs se permettent maintenant de faire construire en dur des choses durables. Dans l'enclos du jardin du Luxembourg qui malheureusement leur appartient, je trouve que c'est un abus de pouvoir très net qui devrait être sanctionné un jour ou l'autre par la justice.
Simplement sur les gares, je voudrais faire quand même un petit bémol.
concernant la gare d'Orsay. Voilà, merci.
Ah, oui, bien sûr, il y a des réussites, bien sûr, ça c'est... Bien sûr, voilà, mais la gare d'Orsay était déjà belle en soi. Oui, en tant que gare, c'est une des plus belles, les plus belles de Paris.
Oui, alors, je voudrais poser une question un peu comme on pose dans les sondages, donc, parce que vous avez l'air friand de modernité. Est-ce que vous trouvez notre époque, c'est-à-dire donc la France de 2003, un peu, beaucoup, infiniment, ou pas du tout poétique?
Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une France poétique ou pas poétique. Non, je ne vois pas comment répondre à votre question. Je trouve qu'il y a peu, il n'y a pas la richesse poétique. C'est en effet quantitatif. Il n'y a pas la richesse qu'on a connue à l'époque précédente, entre les deux guerres en particulier. Une richesse du point de vue du nombre des poètes, Reverdy, Michaud, Claudel encore vivant, jeune père, Supervielle, non, je ne les aime pas tous de la même façon, mais enfin... tout à fait prodigieux. Aujourd'hui, on a l'impression que le paysage est un peu plus désert, mais c'est peut-être parce qu'on est myope, on voit mal. C'est possible. C'est tout ce que je peux dire.
Jacques Reda, merci beaucoup.